Ah, la chasse à l'autobus, y'a que ça de vrai. S'il n'y avait pas tes histoires de shopping à la con là, ben je resterais dans la bise toute ma vie.
Oh là là, tu pourrais enlever les viscères qui pendouillent sur tes épaules quand même. Même à ton niveau de barbarie, ça reste profondément dégueu.
Arrête de m'embêter avec tes détails là, ici c'est un terrain de chasse, c'est pas la Fashion Week. Ah, tu t'es trouvé un nouveau copain à ce que je vois.
Hein? De quoi tu parles?
Ben là, le petit animal à côté de la marmite, tu viens nous en faire un civet?
Oh, mais regarde comme il est choupinou! Ben alors, mon petit, tu as perdu ta maman? Guizzi, 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 guizzi!
Ouais, d'accord, ben a priori, t'as pas prévu de le becter. Bon. Oulalalala, j'ai pas du tout ce regard là.
On peut le garder.
Mais bien sûr, mon petit Taro.
C'est vrai?
Non.
Oh, s'il te plaît, 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 je porterai tout le matos que tu veux. Même, je me transformerai en dragon pour amener ton trophée d'autobus à la maison. Allez, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui.
Bon, d'accord.
Yes!
Ah, je sais pas ce que ça bouffe ta bestiole là, mais j'espère que c'est à la diète, hein, parce qu'on n'a pas des vivres à l'infini non plus.
Ah, mais pourquoi il se met à piailler maintenant? Ah, c'est insupportable! T'as voulu le garder, fais-le taire là, ou alors je m'en occupe et je tranche en deux et on en parle plus.
Mais j'en sais rien de comment ça marche ce truc, moi. Alors, Côtelette, mais qu'est-ce que t'arrives? T'as faim? Tu veux un câlin? Oh, arrête de pleurer, papa Taro va s'occuper de toi.
Bordel, mais viens où ce pilier géant là? Un mètre de plus et il nous écrasait tout net hein.
Taro là, lève la tête, c'est pas un pilier ça. Ça, c'est la maman de Côtelette.
Oh merde.
Le samouraï et la soubrette. Made in Abyss. Saison 2.
Abandonnez tout espoir, vous qui venez ici. Bienvenue dans cet épisode sur la saison 2 de l'anime Made in Abyss. Alors, nous faisons donc cet épisode qui fait suite au précédent qui traite la saison 1 de l'anime. Cela étant, sachez qu'en termes de narration, il y a entre les deux le troisième film qui s'intègre. Les deux films précédents étaient des récapitulatifs de la série, de la saison 1. Et le troisième film, L'Aurore de l'âme des profondeurs, sert de suite à la saison 1 et donc de préquel à la saison 2. C'est pas juste une façon de parler, hein, y a des éléments très 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 importants de progression, dirons-nous, qui figurent, donc c'est absolument indispensable de le regarder entre les deux saisons. Voilà, cela étant dit, donc en termes de pitch, cette saison 2, faisant suite au film 3 qui la précède, simplement bon. Pas un spoiler, mais je vous dis juste à quel étage le groupe de personnages se trouve. Ils sont entrés donc au sixième palier et font la découverte d'un village habité par deux mystérieux habitants dans un mystérieux village dont l'histoire va nous être racontée au fil de cette saison 2. Alors en termes d'équipe pour cette saison 2 de l'animé, eh ben, on retrouve les équipes des opus précédents avec donc le studio Kinema Citrus pour l'animation, toujours Masayuki Kojima à la réalisation, on a toujours Hideyuki Kawata au scénario et donc pour la musique, Xavier reviendra un petit peu plus tard, toujours Kevin Penkin à la composition.
Yes.
Très bien, et ben on va peut-être commencer à attaquer, j'allais dire la moelle, à creuser l'abysse. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la partie visuelle?
Alors, au niveau visuel, c'est relativement simple. On est au même niveau de qualité par rapport à la première saison, et ça tombe bien vu que la première saison était déjà une bonne claquasse visuellement parlant, que ça soit notamment au niveau des couleurs, mais surtout des décors. En fait, les décors, ils sont vraiment magnifiques, et encore plus dans cette saison 2, c'est vraiment des décors qui sont uniques en leur genre. C'est un vrai point fort qui renouvelle la fascination autour de la série et de la représentation de l'étrange dans l'abysse, quoi. L'animation, elle est aussi pas en reste, hein, elle est très détaillée. Bon, les phases d'action, elles sont surtout rassemblées vers la fin de la saison, hein. Bon, bah ça tabasse et ça fait dans le sale, hein. À une attention toute particulière, hein, qui accordait aux effets de démembrement et autres déchirements de chair. Avant chaque épisode, il y a un petit avertissement pour dire attention, c'est cracra,
oui,
Burke.
Cette série peut heurter la sensibilité des spectateurs.
Et ouais. Moi, c'est vraiment cracra Burke. Oui, on peut partir là-dessus.
Regarder en mangeant, donc.
Oui, bah manger, oui, c'est bien ça. Une bonne idée de manger.
Allez, on passe la musique, on attaque les thématiques.
Quelle bonne idée.
Non, parlons peut-être de musique, en fait.
Oui, on va parler. Ah, les oreilles, c'est bien ça, les oreilles.
C'est bien les oreilles.
Voilà. Donc, comme sur la première saison, c'est Kevin Penkin, donc un compositeur australien. Qui fait la musique. Je crois qu'il est australien. Je dis peut-être une connerie, mais il me semble qu'il est australien. C'était déjà le cas sur la première saison et on reprend les caractéristiques de la saison 1, c'est-à-dire des compositions au global calmes, qui manient les synthés discrets et rythmiques calmes et les arrangements au violon. Mais par contre, il y a toute une autre partie avec des compos vraiment dissonantes, en fait, avec une tonalité qui s'oriente toujours comme les décors vers l'étrange, en fait, avec plus de voix, plus de variations et des expérimentations assez folles. Quand je parle des choses qui vont plus rappeler la saison 1, je vais parler par exemple de Old Stories avec son thème vraiment bouleversant au piano, ou d'un morceau comme Golden City avec ses chœurs qui sont vraiment des choses comme on le retrouve dans la première saison. Par contre, dans des choses plus étranges, on va avoir un morceau comme Tomorrowland, où on va avoir l'utilisation très partielle mais quand même assez marquante de vocodeurs. On va avoir des grincements électriques dans le morceau Ryu Sazai. D'ailleurs, Ryu Sazai, ce sont des hippodragons. Donc, si vous avez suivi notre intro, vous saurez peut-être ce que c'est. Sinon, même des orgues désarticulés dans d'autres morceaux. Je trouve que c'est un côté étrange qui rappelle un peu des fois la BO de l'ère des cristaux. Et venant de moi, c'est un grand compliment.
Ouais, j'y pensais quand tu parlais des décors qui étaient vraiment uniques en leur genre. Je me suis dit, tiens, ça rappelle un peu ce qu'on a dit sur Hoseki no Kuni.
Oui.
En regardant ces décors-là, tu peux pas dire, ah, j'ai déjà vu ça 1000 fois dans des animés.
Complètement. Et ben, que ça soit les décors ou je trouve que voilà, il y a peut-être une démarche que je trouve un peu semblable aussi sur certains points de la BO. Par contre, il y a les OP, il y a les openings et endings où moi je suis bon.
Ah, je croyais que t'allais continuer sur la comparaison, dire, mais au moins, comme les autres, c'est des cailloux, il n'y a pas de chair démembrée.
Ouais, alors du caillou va y en avoir, mais bon, ça c'est du spoil. Mais il y aura du caillou, vous inquiétez pas. Ouais, alors l'OP, opening et ending, j'ai pas trouvé ça extrêmement mémorable, notamment l'opening, vu que j'ai bien préféré celui de la première saison. L'ending est un peu plus éthéré. J'ai bien aimé surtout visuellement, en fait, la technique d'animation qui est utilisée, très sympathique pour la fin, tout en noir et blanc, hein, comme si on avait de l'animation en sel, enfin c'était en grain de sable. C'est vraiment très sympa. Les fans de Overlord auront reconnu Myth & Roid, qui fait la plupart des openings et endings de Overlord.
Ouais, je suis d'accord avec toi, je les ai pas trouvés super marquants.
Voilà. C'est dommage, vu que la musique intérieure, pour le coup, elle peut te prendre un peu à revers. Elle est plutôt intéressante, ouais.
Ouais. Ok, on va du coup embrayer vers la narration. Et comme on l'a précisé déjà, le film, donc L'Aurore de l'âme des profondeurs, fait suite à la saison 1 et donc précède cette saison 2. Donc c'est absolument nécessaire pour comprendre la présence de certains personnages, certains disons, équipement, certaines connaissances, ce genre de choses. Donc là, il n'y a pas le choix, hein, vraiment, c'est important. Et bah, pour ce faire, de toute façon, c'est comme pour la série, ça va être via Wakanim et Crunchyroll.
Oui.
Parce que pour l'instant, pour Made in Abyss, la distribution physique n'est faite que pour la saison 1.
Petite précision, le film, lui, n'est accessible que sur Wakanim.
Ouais, Crunchyroll l'ont pas.
Non, ils ont que la saison 1 et la saison 2, ce qui est assez méchant, je trouve.
Voilà, surtout que Wakanim m'a annoncé Crunchyroll.
Ouais, alors que bon, t'arrives de la saison 1, là, si tu dis tiens, je vais me faire toute la série, tu arrives saison 1, saison 2, tu dis tiens, y a... c'est marrant, les goûts, il a une petite modification, je sais pas ce qui s'est passé.
Ouais.
Entre autres.
Bon, après, vous savez, Internet, c'est comme l'abysse, hein, quand on croise, on trouve. Voilà, je dis ça, je dis rien.
Voilà.
Et donc, du coup, en termes de narration, eh ben. On va avoir plusieurs timelines, plusieurs fils temporels qui vont nous être narrés au cours de cette saison avec du coup des alternances entre ces époques. On va avoir donc d'une part les pionniers qui sont venus explorer ce palier il y a fort fort longtemps et qui semblent avoir du coup une certaine connexion avec ce lieu que sont en train d'explorer notre groupe d'aventuriers habituels. Eux-mêmes du coup qui du coup arrivent des années plus tard et entre temps il y a eu des grands changements plus tard les flashbacks autour d'un certain personnage qui lui aussi est lié à cette histoire. Le village c'est vraiment le liant, le centre de cette saison et du coup bien malgré eux ça relie les aventures de différents groupes de personnages qu'on va suivre du coup tout au long de la saison 2. Alors cette alternance moi je l'ai trouvée assez intéressante.
C'est ce qui permet je trouve à la saison de tenir en haleine malgré ouais. quelque chose que tu vas
voilà.
nous expliquer.
Et mais ben bon, c'est l'alchimie, hein, c'est l'échange équivalent. Aide et Al pourrait vous le dire. Ouais. Vous ne pouvez pas obtenir quelque chose sans donner en retour. Ben c'est qu'en fait le film L'Aurore de l'âme des profondeurs. Donc encore une fois, on va faire notre maximum pour ne pas vous révéler de points importants de l'intrigue. Mais bon, ça bougeait pas énormément dans l'aventure. Malgré tout, il y avait de la progression. Les personnages obtenaient de nouvelles connaissances, de nouvelles capacités, où on se dit à la fin du film, waouh, ok, ils reprennent leur voyage, ça y est. Mais tout ce qui s'est passé, c'était pas bon rien quand même. C'est-à-dire que là, ça y est, ça devient sérieux, ils vont pouvoir continuer à avancer au lieu de rester bloqués comme des cons. Cette saison 2, ce qui nous est raconté, c'est assez intéressant, c'est parfois même des fois fascinant, ça regorge d'idées. Mais à la fin, ça ressemble un peu à une quête secondaire, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, mais votre voyage, du coup, c'était la petite pause tourisme dans ce palier-là, en fait.
Oui, alors tourisme traumatique, mais tourisme quand même.
Ah, oui, tourisme. Bon, il y a des créatures, si ce n'est que là, quand on parle de nourrir les animaux, c'est qu'en fait, c'est pas tu leur donnes à bouffer, c'est tu te donnes à bouffer.
Littéralement.
C'est la seule différence.
Oui, c'est ça, c'est qu'au final, quand t'arrives à la fin de la saison et que tu te demandes qu'est-ce qu'ils ont retiré de toute cette aventure, globalement, on va dire des souvenirs.
Ouais.
Et ça s'arrête là.
Ouais, je suis assez d'accord. Donc, même le film, au final, allait plus loin que ça, en vraiment leur débloquant des skills, quoi.
Ben, écoute, t'as des
personnages supplémentaires,
t'as des
capacités supplémentaires, des
oui,
objets supplémentaires.
Des capacités en moins aussi.
Oui, bon, ça, qu'est-ce que je te dise.
Voilà.
L'échange équivalent.
Ouais. Mais bon, voilà, c'est quand même intéressant. Voilà.
Là, du coup, en fait, là, pour résumer ça, moi, je dirais, là, ça commence à faire long quand même. C'est-à-dire, ils vont bouger en saison 3, ils vont avancer ou
Je crois que c'est le moment où je t'indique qu'actuellement, le manga en est à peut-être 3 chapitres de plus que ce qu'on a vu en animé.
Donc,
en gros, pas tout de suite la saison 3.
Ouais.
Voilà.
Écoute, du coup, je te laisse partir sur les thématiques.
Oui, effectivement, là on va parler un peu d'adversité parce que jusqu'à présent, dans Made in Abyss, que ce soit dans la première saison ou dans le film, l'adversité c'était soit la nature très hostile, soit la perversité ou en tout cas le caractère très particulier des sifflets blancs qui se comportaient un peu comme des boss de fin de niveau, on va dire. Et c'est ça qui posait le plus gros problème, le gros problème à Rico, Légu et puis les gens qui au fur et à mesure l'accompagne. Là, on est sur quelque chose de différent. Ça va être plutôt un test de motivation. Finalement, le focus de la série sera moins sur les personnages principaux que sur les personnages de ce fameux village dans lequel vont être Rico, Legu, Nanachi, Menia, Prushka,
ouais,
et tous les autres.
Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Ils sont en retrait par moment.
Ouais, ouais, c'est ça. Après, on a moins le focus sur ces personnages-là, le village est, j'allais dire, vraiment fascinant dans la manière dont il est, décrit. Il n'y a pas que son histoire qui, je pense, fera probablement tourner de l'œil certains. Mais c'est surtout il y a une grande réflexion sur la valeur, sur la motivation, sur ce à quoi on est prêt d'arriver pour avancer, ce qu'on est capable de faire pour la survie. Quand je parle de réflexion sur la valeur, il y a un système dans le village qui équilibre les transactions à l'intérieur du village, et c'est pas un système monétaire comme on pourrait voir ailleurs. C'est un système vraiment qui se base sur la valeur qu'on accorde aux choses. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant vu que ça est en miroir par rapport à la motivation notamment de Rico sur quelle valeur elle accorde à son envie d'avancer, à ses camarades, aux gens autour d'elle, etc.
Ouais.
De façon aussi assez intéressante, pour arriver à ses fins, il peut y avoir des décisions collectives qui vont, même pour de bonnes raisons, qui seraient de la survie, mais qui sont complètement contraires à ses codes moraux et à ses principes, comment on les gère. C'est un des grands thèmes aussi de cette saison 2.
Mais on les gère pas, il n'y a pas à s'emmerder.
Eh ben, pour le coup, c'est la réponse d'un des personnages, ça. Le chef de village...
Penses-tu que c'était innocent?
Le chef de village est plutôt de ton avis. Et voilà, sinon il y a un thème assez classique autour d'un personnage particulier qui va parler de vengeance, de pardon et de vengeance et puis d'acceptation plus que de pardon.
Ouais, et c'est cool que tu dises que tu utilises ces mots-là parce que quand on parle de vengeance, d'acceptation, voire éventuellement de pardon, ça rappelle un Pokémon qui s'appelle Mewtwo.
Ah.
Et ce qui est amusant, c'est que le personnage dont tu parles, donc qui s'appelle Faputa, arrive dans l'anime à avoir certains questionnements, certaines réflexions qu'il rapproche aussi de Mewtwo dans le tout premier film Pokémon, dans le tout premier long métrage qui lui était en grande partie consacré, où il s'interroge sur son existence, son but, ses propres motivations, sa légitimité, etc., etc. Et je trouve que c'est un beau parallèle à faire avec ce personnage-là. Et du coup, c'est une transition toute trouvée vers notre section personnage. Mais avant de continuer sur ce personnage-là, je voudrais faire dans l'ordre parce que on était relativement d'accord sur un peu tous les trucs. Rico toujours aussi inutile, comme on se l'est dit, sauf qu'en plus d'être inutile, elle est en retrait. Enfin, le groupe en général, mais surtout Rico. Legu, par exemple, un peu moins quand même sur cette saison, mais elle, elle aurait pas été là, ça aurait été pareil, quoi.
Alors, en fait, il y a un truc qui est étonnant de façon scénaristique, c'est que, en gros, c'est parce que, elle reste le centre du groupe parce que, au final, elle est humaine, sans en dire plus.
Voilà.
Voilà. C'est un être humain.
Voilà.
Mais sinon, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi.
Donc voilà, moi, je commence à me désintéresser de ce personnage, honnêtement.
Donc, c'est le moteur principal, donc mettons quoi.
À voir ce qui est de quoi il retournera dans les suites. Nanachi, donc, qui sait encore être le pilier sur lequel le groupe va pouvoir reposer dans des situations où les deux autres Zygoto auraient été complètement perdus. Mais qui reste, comme tu le soulignais en off, psychologiquement parlant, quand même le personnage le plus vulnérable. Là aussi, c'est quelque chose qui a été habilement montré dans cette saison 2 et peut-être que ça pourrait aller plus loin dans la saison 3.
En tout cas, c'est quelque chose qui était c'est marrant la vraie différence qu'il y a entre le côté très sûr d'elle par rapport à ses connaissances de l'abysse par rapport aux deux autres qui sont mais des noobzor totaux.
Ouais, noob et insouciant en plus.
Ah oui, vraiment.
Oh, YOLO, on y va et on verra ce qu'on fait, quoi.
On est d'accord qu'entre la saison 1 et la saison 2, Rico, toute seule, elle descend dans l'abysse, elle est morte 20 fois. Elle est morte 20 fois.
Ouais, bah, je pense qu'elle serait même pas arrivée au palier 2 sans se casser une jambe déjà.
Non. Donc voilà, on peut rien en faire. Donc, et limite, même par rapport à l'Igou qui va se baser uniquement sur ses capacités hors du commun. Naichi, elle est beaucoup plus maligne dans son approche et beaucoup plus prudente déjà.
Ouais. Et du coup, donc Faputa.
Maintenant, on peut parler tous les personnages pour l'instant dont on parlait, c'est les personnages qu'on connaissait déjà. Là, ouais. C'est des nouveaux personnages qui sont introduits dans cette saison 2.
Ouais. Bah, je vais pas parler de Prouchka parce que. Allez, donc j'attaque sur Faputa. Et c'est le personnage sauvage, un peu têtu, mais qui est une force de la nature complètement surpuissante. Qui arrive assez tard au final, et du coup son évolution, que je trouve assez intéressante, se fait quand même malgré tout assez vite, assez soudainement, à cause de la construction narrative de cette saison 2, donc ces fameuses timelines là.
C'est ça.
Parce que vous le verrez en voyant la saison 2, ils pouvaient pas faire intervenir ça plus tôt, sinon ça n'aurait pas eu de sens.
Après, pour moi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça reste le personnage principal de pour moi de cette saison 2. Vu que c'est le personnage, en gros, cette saison 2 n'a pas de sens si il n'est pas construit autour de ce personnage.
Ouais.
Vraiment. Et en plus, ce qui est intéressant, juste pour revenir vite fait sur les personnages qu'on connaissait d'avant, l'Igou, c'était un chevalier servant en saison 1, c'était un chevalier servant dans le film. C'est encore plus un chevalier servant dans la saison 2. Il aime bien les pluches. Je sais pas quoi dire d'autre.
Moi, j'en connais qui aiment bien les pluches.
Pour reparler des personnages de cette saison 2, il y a deux personnages, Vuelco et Belco. Vuelco, en fait, ça va être la narratrice de la partie flashback, ou en tout cas un des personnages sur lequel on va le plus se focaliser dans les flashbacks quand on va raconter l'histoire du village. Et Belco va être présenté comme un personnage très vertueux, avec des principes forts. Et je trouve que les deux, en fait, ils sont ces deux faces de la même pièce, parce que en gros, ils sont mis face à leurs actes et ils doivent choisir la voie par laquelle ils peuvent guérir ou pas et se mettre en accord avec eux-mêmes par rapport à ces actes-là.
Et du coup, Belaf, ce serait la tranche de la pièce?
Non,
lui, c'est un billet, lui.
Ouais,
ouais, on est d'accord.
Voilà. Parce que je préfère pas parler, je préfère que les gens découvrent ce personnage fort intéressant.
Ok.
Je parlerai bien de la VF.
Ouais,
mais il y en a
dire,
pas encore.
Alors Captain VF, on en dit plus rien. Hein,
je dirais plus
on
rien.
On la ramène pas avec sa petite cape et son slip moulant là. Hein.
Je sais pas si tu l'as indiqué, mais bon, c'est une série qui a été diffusée à partir de juillet 2022. Il n'y a pas de simulcast VF qui a été produit pour la série. Par contre, comme la saison 1 a eu droit à une VF tardive, Crunchyroll a annoncé que la saison 2 était en cours de doublage, au vu de la qualité de la saison 1 avec l'incroyable Caroline Combe, notamment dans le rôle de Rico, et Nathalie Holmes dans le rôle de Ozen, que peut-être on verra en saison 2 ou plus tard, sait-on jamais. Je pense que je suis assez confiant sur la bonne tenue de cette VF en saison 2, en espérant qu'elle arrive assez vite.
Ok, on vous en parlera pas, mais sachez, ça arrivera bientôt.
Exactement.
Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour cette deuxième saison, ou voire même pour l'ensemble saison 1, film saison 2 là ?
Oui. Made in Abyss, c'est vraiment une œuvre qui fascine par son côté souffle de l'aventure dans un premier temps, et dans c'est vraiment, pour moi, c'est le retour des vrais récits d'aventure avec de, vraiment de l'adversité qui va au-delà de la difficulté de naturelle ou de l'environnement. C'est quelque chose qui te met vraiment, qui met justement les protagonistes face à leur choix, face à leur morale, face à leur motivation, que je trouve vraiment intéressant. Et la série, elle arrive à se renouveler dans l'étrange, elle arrive à se renouveler dans le bizarre, elle arrive à se renouveler même dans le potentiellement repoussant aussi. Et la saison 3, la saison 2 là, elle est pas avare en trucs repoussants, hein, soyons clairs. Après voilà, mon seul bémol, c'est que j'ai peut-être l'impression que l'auteur ne sait pas forcément où il veut aller ou s'il a une vraie réelle direction globale. Il en avait peut-être une au début, mais là c'est vrai que ça fait quand même quelques chapitres où ça avance beaucoup moins vite qu'auparavant, donc à voir jusqu'où ça peut emmener. Mais artistiquement, entre les décors, la musique, il y a quelque chose qui est vraiment unique parmi les œuvres animées japonaises de ces dernières années.
Je suis d'accord avec tout ceci.
Très bien.
Voilà, et c'est donc ainsi que se termine cet épisode canonique donc sur la saison 2 de Made in Abyss. Restez à l'écoute, suivez-nous sur nos différentes plateformes. Et bah désolé, pas sur Amazon Music et Apple Podcast parce qu'on s'est fait refouler.
Dommage.
Le plus simple pour savoir où on est disponible à l'instant T, c'est de retrouver la liste sur le site lesamouraïetlasoubrette.fr. Et puis bah en attendant, on vous dit restez à l'écoute pour un prochain épisode.
À bientôt.
Salut.